Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans ce journal. Dominique Strauss-Kahn est libre de ses mouvements, libre même s'il n'est pas encore blanchi. Et la presse française se fait largement écho ce matin de ce retournement de situation, extrait choisi dans ce journal. La 14e Pride homosexuelle de Suisse romande a lieu cet après-midi à Genève et c'est l'occasion de parler des revendications des homosexuels avec notre invité Yves de Matteis. Des centaines de milliers de Japonais s'inquiètent pour leur avenir et pour cause, la radioactivité reste très élevée dans certaines régions. C'est avec un compteur Geiger qu'Alain Arnaud nous y emmène. Sur la route de Fukushima, ce sera dans une quinzaine de minutes le reportage de la rédaction. Il fait beau, mais pas si chaud, 22 degrés maximum sur le plateau et avec de la bise, s'il vous plaît. Même type de temps demain, la météo complète, c'est en fin de journal. Hier, c'était la surprise. Aujourd'hui, place aux questions. Un mois et demi après le déclenchement de l'affaire DSK, le coup de théâtre d'hier plonge la France dans un torrent de spéculation. Tous les journaux français font évidemment leur manchette sur ce rebondissement spectaculaire de l'enquête à New York et s'interrogent : l'avenir présidentiel de Dominique Strauss-Kahn a-t-il été enterré trop vite ? À Paris, Joël Meskens.
C'est un dessin signé Rançon dans Le Parisien. Le caricaturiste résume la façon dont il voit le combat présidentiel de 2012, une Rolex contre un bracelet électronique. Le dessinateur va sans doute un peu vite en besogne. La plupart des éditorialistes sont beaucoup plus prudents. Les graves accusations qui pèsent contre DSK demeurent, écrit Le Figaro. S'il n'était peut-être pas un violeur présumé, il était tout de même un homme, je cite, au désir sexuel démesuré. La presse spécule beaucoup, mais personne n'imagine encore DSK défier Nicolas Sarkozy. Il peut retrouver son honneur, mais pour l'Élysée, la route est définitivement barrée, assure le Midi Libre. La longue marche de DSK vers son retour en politique recèle encore des embûches, analyse de son côté Le Parisien. Des plans sur la comète qui agacent la République du Centre. Ces spéculations sont déplacées, dénonce le journal. Elles participent de cet emballement de l'info qui, à force d'instantanéité et d'anticipation, abrutit au lieu d'éclairer. À bon entendeur, si l'on a trop vite enterré DSK, il ne faudrait pas non plus le ressusciter dans un même délire. Un mea culpa qu'esquisse aussi d'autres journaux. Avons-nous collectivement failli, s'interroge Libération. Non, répond le journal, pour qu'il n'y a pas eu de dérapage. Mais le quotidien confesse tout de même un peu de délire interprétatif et une volonté de surexploiter l'événement à des fins politiciennes ou commerciales. Joël Meskens, Radio Suisse Romande, Paris.
C'est une journée importante aujourd'hui pour la Grèce qui attend une nouvelle aide de l'Europe. Après le vote jeudi du plan d'austérité du côté grec, les ministres des Finances de la zone euro ont rendez-vous cet après-midi pour une conférence téléphonique. Ils doivent décider de la suite à donner pour éviter la faillite à une Grèce surendettée. Les opérations de recherche du couple de Suisses enlevés dans le sud-ouest du Pakistan ont démarré aujourd'hui. On ne connaît pas encore l'identité de ces deux citoyens. La police a retrouvé leur camping-car dans un endroit boisé. Selon des témoins, le couple a été emmené à la pointe du fusil par des hommes armés non identifiés. C'est ce qu'indique la police ce matin. Aucune revendication n'a encore été révélée. L'énergie, pensez-y plus, dépensez-en moins. C'est le message délivré ce matin à Delémont par le président du gouvernement jurassien, Philippe Receveur. Il s'exprimait à l'occasion de l'ouverture d'un forum de l'énergie où l'ensemble de la population a été conviée. Objectif, l'associer à la mise en œuvre d'une stratégie cantonale pour 2030. Une stratégie qui vise une autonomie d'approvisionnement. Et c'est ambitieux puisque la consommation d'électricité dans le Jura a augmenté de 35% ces 10 dernières années. Gaël Klein.
Les Jurassiens dépensent chaque année 200 millions de francs pour acheter leur énergie, une énergie qui dépend pour 60% du nucléaire. C'est donc un défi considérable auquel s'est attaqué le gouvernement jurassien. Entre exposés et tables rondes, ce forum auquel participent aussi de nombreux producteurs et distributeurs d'énergie s'inscrit dans un processus participatif voulu par les autorités. Le président du gouvernement jurassien et ministre de l'Environnement et de l'Équipement, Philippe Receveur.
Nous n'avons pas pour vocation d'imaginer une feuille de route qu'on aurait concoctée dans une officine en disant aux gens, voilà ce qu'il faut faire. On a des solutions qui se dessinent, certaines sont beaucoup plus enthousiasmantes que d'autres, certaines sont problématiques, il faut les partager mais pas les écarter. Je pense ici par exemple aux éoliennes, un débat qu'on doit avoir sans tabou, mais aussi en considération des problèmes que ça pose pour trouver des solutions acceptables pour la population.
Présent ce matin de Lémont, le vice-directeur de l'Office fédéral de l'énergie, Daniel Buchel, a souligné l'initiative prise par les autorités jurassiennes et surtout l'aspect pionnier d'une discussion avec la population. un exemple à montrer à toute la Suisse.
C'est pas facile ce qu'on veut faire dans la politique énergétique. On a besoin de la population qui vient avec sur ce chemin. Et à cause de cela, c'est vraiment bon ce qu'on fait ici dans le Jura. Et j'espère aussi que M. Receveur, il va dire à ses collègues ce qu'il a fait ici. Et moi, je vais de toute façon parler de cela et aussi motiver les autres cantons de faire une manifestation de cette manière-là.
Symbole de cette volonté d'associer la population, une simple boîte à idées déposée dans les travées du forum est destinée à recueillir toutes les suggestions.
Nous avons les mêmes droits, nous voulons les mêmes devoirs. C'est le slogan de la Pride romande 2011 qui a lieu aujourd'hui à Genève. La Pride, c'est donc la grande parade de la communauté homosexuelle. Des milliers de personnes sont attendues pour cet événement qui se veut festif et coloré. Mais la Pride, c'est aussi toujours l'occasion d'afficher certaines revendications pour les gays et les lesbiennes. Yves de Matteis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc l'un des porte-parole de la Pride 2011. Vous étiez aussi l'un des initiateurs des premières Pride romandes à la fin des années 90. Alors entre le premier défilé, c'était en 97, et celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ?
Alors il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Il y a tout d'abord la Constitution suisse qui inclut l'interdiction de la discrimination sur la base du mode de vie. Et bien sûr, il y a eu ensuite les premiers partenariats en 2001 au niveau cantonal à Genève. Et bien sûr, la loi sur le partenariat qui est entrée en vigueur en 2007 et qui a fait que le peuple a pu se prononcer sur ce qu'on appelle souvent le mariage homosexuel.
Alors donc on le sent, hein, il y a plusieurs acquis qui ont déjà eu lieu. Est-ce que ces défilés ils ont encore un sens aujourd'hui du coup ?
Alors oui, aujourd'hui ça a encore un sens parce que malgré ces avancées, il y a un certain nombre de points qui restent totalement dans l'ombre. Et par exemple, bon, il y a trois revendications de la Pride. La première, c'est l'interdiction des discriminations qui pourrait être réglée via une loi au niveau fédéral et via l'inclusion d'une mention spéciale dans la Constitution genevoise, puisqu'on est à Genève. La deuxième revendication a trait à l'homoparentalité, c'est-à-dire faire en sorte, par exemple, que les enfants qui vivent déjà dans des familles homoparentales ou transparentales, d'ailleurs, puissent également être adoptés par le partenaire ou la partenaire de leur mère ou de leur père, ce qui n'est pas le cas, ce qui est au désavantage actuellement des enfants. Et enfin, la troisième revendication a trait à la question de la transidentité, donc de faire en sorte que les personnes trans ne soient pas, comme c'est actuellement le cas, forcé d'être stérilisé avant de pouvoir changer officiellement de sexe selon l'état civil.
Alors cette Pride, elle a lieu à Genève, vous le disiez, mais elle se veut romande. Où se situe la Suisse aujourd'hui d'une manière plus large ?
Alors disons, c'est un petit peu un intermédiaire entre les pays qui sont les plus avancés et qui sont les pays du Nord, donc la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, etc. et qui ont déjà quasiment tous les acquis qu'on demande aujourd'hui en Suisse. Et bien sûr, il y a d'autres pays où c'est vraiment tout à fait l'opposé, à savoir plus de 80 pays où l'homosexualité est punie de peine de prison, pouvant aller jusqu'à plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et 5 pays encore actuellement qui condamnent l'homosexualité de la peine de mort. Donc on a des acquis, l'homosexualité n'est plus condamnée depuis 1945 en Suisse, mais on est encore loin des pays qui font vraiment figure de pays les plus avancés au niveau mondial.
Yves de Maïtaïs, on a entendu peu parler en fait dans le fond de cette Pride 2011, hein, il n'y a pas eu de polémique en tout cas. Comment ça se fait ? Est-ce que vous n'avez pas assez communiqué ?
Moi, je pense plutôt que, en fait, il n'y a pas vraiment de problème. Souvent, les médias relèvent plutôt les prides à problème. Ça avait été le cas à la Pride de Sion, où d'ailleurs j'étais présent, voire la Pride de Moscou, où j'étais également présent, où je me suis fait un peu tabasser, enfin, quelques coups de pied, par des contre-manifestants. Et là, évidemment, il y avait plein de presse, et j'ai même pu m'exprimer à l'époque pour cette Pride de Moscou. C'est vrai que les prides romandes actuellement aux Suisses sont peut-être moins source de, disons, d'intérêt médiatique du fait qu'elles sont moins problématique que ces prides-là.
Moins polémique, donc plutôt positif.
Moins polémique, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler du programme de cette journée aujourd'hui ?
Alors écoutez, donc les discours auront lieu à 14h, donc dans à peu près 1h20. Donc j'appelle toutes les personnes qui veulent venir à être présentes à ce moment-là. Et ensuite, le défilé ira sera devant le Palais Wilson sur la rade de Genève. Et elle ira ensuite au Parc des Bastions, où là se situe le village de la Pride, qui aura lieu à peu près, bon, il est déjà installé actuellement, mais va battre son plein aux alentours de 16-17h.
Yves de Matteis, vous êtes donc l'un des porte-parole de la Pride 2011. Merci d'être venu un moment dans ce journal. Très bonne fête à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et une autre Gay Pride se tient aujourd'hui également, mais à Madrid, ce sont plus d'un million de participants qui sont attendus. En tennis, la finale féminine de Wimbledon débute dès 15h. Elle met aux prises la favorite, la russe Maria Sharapova, cinquième joueuse mondiale, à l'outsider, la tchèque Petra Kvitova, une jeune gauchère de 21 ans, huitième mondiale, Hervé Borsier.
C'est un challenge difficile qui attend la jeune Petra Kvitova. Elle tentera de remporter un tournoi du Grand Chelem pour sa première apparition en finale, un exploit qui n'a plus été réalisé depuis 7 ans. Elle pourrait aussi obtenir du même coup une autre grande performance incroyable, celle de s'imposer sur 4 surfaces différentes la même année. Elle a déjà remporté le tournoi sur ciment de Brisbane, en indoors à Paris et sur la terre battue de Madrid. Mais Maria Sharapova, qui vise un 4e titre majeur, mettra toute sa hargne et la puissance de son cri, 108 décibels, pour s'imposer une deuxième fois sur le gazon anglais, une revanche sur elle-même après une traversée du désert consécutive à une opération à l'épaule. Hervé Borsier, Radio Suisse Romande, Wimbledon.
Et avis aux amateurs de sport, cyclisme et tennis s'inviteront dans les bulletins horaires tout au long de l'après-midi. Autre amateur, autre ambiance, celle du Montreux Jazz Festival. Ce soir, voilà un concert à ne pas manquer au café du Montreux Jazz Festival, le groupe Woolef. Vous ne le connaissez sans doute pas et pourtant il passionne la presse spécialisée. Michel Masseret.
Depuis quelques mois, ces musiciens originaires de Manchester font couler l'encre des deux côtés de la Manche. Récemment, les Inrecuptibles en faisaient leur une. Un choix pas banal lorsque l'on connaît la nouvelle orientation plus sociétale et politique du magazine. Il faut dire que Woolef est devenu d'une certaine manière un phénomène de société. Le groupe s'est fait connaître en tenant une soirée mensuelle dans sa ville où il jouait régulièrement, créant un buzz toujours plus grand. Puis il disparut avant de sortir un premier maxi en série limitée et hors de prix. Nouvelle éclipse et panique des fans sur le net à la recherche de la moindre information jusqu'à la sortie de leur premier album « Go Tell Fire to the Mountains », un titre emphatique pour une musique qui ne l'est pas moins. Woolef est en fait un chaudron brûlant dans lequel on aurait mêlé le souffle d'Arcade Fire, la passion de U2 et le bruitisme échevelé de Godspeed You Black Emperor. Avec le petit plus venant de la voix de Hillary Roberts, une voix cassée et habitée, ou plutôt exaltée. C'est d'ailleurs le terme qui qualifie le mieux le caractère de ce groupe qui cite pêle-mêle parmi ses influences Guy Debord, le chanteur africain Fela, Maradona et Saint-Exupéry. Sur disque, cet étrange patchwork épique finit par lasser, mais qui sait, la scène pourrait le transformer en un brûlant orage sonore.
Minutes. Le magazine de reportage de la rédaction.
Le Japon traverse la pire crise de son histoire depuis Hiroshima. Séisme, tsunami, catastrophe nucléaire, Fukushima est devenu le symbole des risques liés à l'exploitation civile de l'atome. 15 minutes vous propose sur la route de Fukushima le reportage de notre envoyé spécial au Japon, Alain Arnaud, avec l'assistance technique de Cyril Delemer. Alain Arnaud, compteur GIGR en main pour mesurer la radioactivité.
Je ne veux plus que le Japon construise des centrales nucléaires.
Eh bien, si vous me demandez mon avis, je me prépare au scénario du pire.
Bon, quand on voit ce qui s'est passé à Tchernobyl, on a des raisons de s'inquiéter.
Bien sûr, c'est la terre que notre famille a construite. C'est clair qu'on ne veut pas l'abandonner.
Le printemps de l'océan, c'est le nom du bateau de Takashi Yamagata, presque 5 tonnes pour 19 mètres de long, un bateau spécialisé dans la pêche aux petites sardines. Aujourd'hui, une grande grue le dépose sur un très gros camion. 16 jours de fête, on remet le bateau à l'eau, il est comme neuf, mais il revient de loin. Il a été jeté sur le quai par le tsunami du 12 mars. Et puis la deuxième vague l'a repoussé vers la mer. Il a coulé, explique Takashi Yamagata. Nous sommes au port de Kita Ibaraki, à 75 km au sud de la centrale de Fukushima. Le compteur Geiger est au calme plat, pas de danger de ce côté-là. Beaucoup de pêcheurs sont là pour réparer leurs bateaux, certains sont déjà dans l'eau.
Tous ces bateaux que vous voyez ici ne sont pas en service à cause des radiations. Aussi longtemps que les radiations seront là, on ne pourra pas du tout faire de prévision pour l'avenir. Nous, après avoir pêché un stock de ces poissons, on a reçu des instructions du gouvernement de la préfecture. On nous a dit de ne plus pêcher cette saison.
Hatsuo Oikawa construit et répare les bateaux. Son chantier naval, au moins, ne manque pas de travail, se réjouit-il. Du poisson, il y en a des tonnes qui ne demandent qu'à être pêchées. Dans la province d'à côté, ils ont repris les opérations. Mais ici, avec la centrale qui fuit, c'est autre chose. Il y a comme un air de Tchernobyl. Il se dit très inquiet. Le pêcheur Yamagata, quant à lui, dépassé l'état de choc, advienne que pourra, déclare-t-il sur le ton de la désillusion. Sa conviction, en tout cas, c'est que le Japon doit sortir du nucléaire. Et quand on lui demande comment il fait, lui, pour nouer les deux bouts, maintenant qu'il est sans travail, il répond simplement qu'il a fait des dettes.
Moi, je comprends que les mesures sont prises un mètre au-dessus du sol, mais je crois que le sol est encore plus dangereux. Donc, je ne laisse plus jamais sortir mon chat de la maison.
Quand on regarde la télé et qu'on voit le gouvernement présenter ses excuses, eh bien, moi, j'ai de la peine à penser qu'elles sont sincères.
En réalité, même s'il y a de la nourriture dans les champs, on ne sait pas comment juger si elle est consommable ou pas. Ça m'inquiète.
Je crois que Fukushima est comme le cobaye d'une expérience à large échelle. Mais nous ne pouvons pas revenir à l'âge de pierre. La question sera de savoir si nous devons sacrifier toutes les centrales nucléaires, en voyant alors à quoi ressemblera notre vie quotidienne et les effets sur la société, y compris l'activité économique. Ça, ce sera notre nouvelle tâche.
Bienvenue à Hirono, bourgade presque fantôme à 20 km de la centrale. On est en pleine zone d'exclusion, juste en bordure de la zone d'évacuation. Les clients de l'épicerie travaillent tous au J-Village, le village J comme Japon. Habituellement camp d'entraînement pour la Ligue nationale de football, l'endroit est devenu le quartier général des nettoyeurs, des réacteurs avariés, mais ils ont l'interdiction de parler aux médias. Le compteur Geiger affiche un taux de radiation juste un peu plus élevé. Le village est désert, la plupart l'ont quitté, les champs, les cultures sont à l'abandon, les rizières à sec. Mais au détour d'un chemin, un homme est resté dans sa maison avec ses animaux. Il travaille au réacteur numéro 1 depuis longtemps. Il accepte de me parler en me faisant jurer de ne pas dire son nom. Il se souvient du 11 mars.
Quand j'étais là-bas, il y a eu le tsunami. Enfin, d'abord le séisme, ensuite le tsunami. Moi, je regardais tout ça depuis un lieu élevé. D'abord, l'océan s'est retiré. Juste après, il est revenu et tout à coup, la vague a viré au noir. J'étais tellement surpris et je me suis dit, c'est la fin.
Après le séisme, ce résident est parti se réfugier dans une ville voisine. Puis la centrale l'a rappelé un mois plus tard, il fallait des forces vives pour tenter d'éviter une catastrophe encore plus grande.
Si on n'agit pas vite et efficacement, toute cette préfecture va disparaître. Si le gouvernement fait vraiment son boulot, ça ira. Mais le gouvernement actuel ne le fait pas du tout. La centrale, la ville, tout ça va s'effondrer. Le problème, c'est l'argent. Ils ne font rien. Comme vous voyez, les champs sont délaissés. On ne s'occupe pas du village, encore moins le long de la côte. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas.
Maintenant, à la centrale, les travaux avancent tant bien que mal, plutôt mal.
Les gars qui bossent sur le site sont les seuls qui se donnent vraiment. Ils font de leur mieux. Les décideurs devraient plus en tenir compte. Vous voyez que cette ville est dans cette condition, donc les gens qui décident ne sont pas bons. À propos du tremblement de terre, tout est tellement incertain. Au début, nous avons eu ce grand séisme le 11 mars, mais il y en a eu un autre très fort, juste avant, dans cette région. Le gouvernement et d'autres ont dit que la région était complètement sûre. Maintenant, vous voyez ce qui s'est passé. Iwate, Miyagi, Fukushima sont toutes dévastées. Le gouvernement n'a jamais pris les précautions nécessaires. Je suis triste, pas pour moi, mais pour les petits-enfants. S'ils doivent continuer de vivre dans cette préfecture de Fukushima, j'ai des nièces, des neveux, je suis tellement inquiet.
Alors même si la région vivait des emplois et des moyens fournis par TEPCO et la centrale, il faut laisser tomber.
J'aime pas le dire, mais nous avons eu les bombes à Hiroshima et Nagasaki. Est-ce qu'on en a tiré des leçons ? Ils n'ont pas arrêté de dire que c'était sûr et nous avons construit des centrales nucléaires pour créer de l'emploi. Si vous me demandez mon avis, on se porterait mieux sans centrales nucléaires.
Non, ils ont caché tellement d'informations après la première explosion. Maintenant, je ne leur fais plus confiance.
D'abord, cet endroit a le taux de radiation le plus élevé du village. Et c'est une information qu'ils n'ont pas du tout rendue publique.
Aussi longtemps qu'il y a la possibilité que ce genre d'accident arrive à nouveau, nous devrions viser à sortir du nucléaire. C'est vraiment la seule direction à prendre.
Il s'appelle... Ils ont entre 4 et 5 ans au jardin d'enfants Mebache, ça veut dire la fleur qui bourgeonne, dans la ville de Fukushima. Il fait chaud dans les 30 degrés, les fenêtres restent fermées, il n'y a pas la clim, juste un ventilateur. Les enfants n'ont pas le droit de sortir, même si le terrain de jeu est juste là devant leur nez. Akinobu Seki est le patron des lieux, il est aussi le président de l'association des jardins d'enfants privés de la préfecture de Fukushima.
Le ministère de l'éducation avait jugé le niveau actuel des radiations suffisamment sûr pour laisser les enfants jouer dehors. Mais les parents de certains élèves d'école primaire ont exprimé des inquiétudes. Comme c'était très difficile de satisfaire toutes les demandes des parents, ils ont pris la décision commune de ne pas laisser sortir les enfants. Dans notre cas, nous avons des jardins d'enfants, et même si le niveau de radiation est le même comparé aux écoliers de primaire et de secondaire, les nôtres sont plus petits. Nous ne sommes pas sûrs des effets sur nos enfants. C'est pourquoi nous avons dès le début pris la décision de ne pas laisser sortir les enfants.
Akako Watanabe est la maman de deux petits-enfants. Elle explique qu'elle les laisse quand même parfois sortir au jardin, mais interdiction de jouer au sable ou de toucher les feuilles des arbres. C'est très dur pour eux, comme pour moi. Emitsuko Kaneko, mère de deux jumeaux, d'estimer que Fukushima est comme un immense champ d'expérience où les habitants sont les cobayes. Tous déplorent le manque d'informations, le flou qui règne, les rumeurs et les doutes. C'est parce qu'il y a des radiations, c'est très mauvais si on est exposé. Ils n'ont pas 5 ans, mais sont déjà experts en prévention nucléaire. Ces enfants sont l'avenir du Japon, les autorités devraient leur accorder plus d'attention, conclut Akinobu Seki. Il précise que les autorités ont accepté de financer l'air conditionné dans les jardins d'enfants publics, mais pas pour les privés.
C'est très dur. Ma maison est tellement proche. J'y habitais encore juste avant. Je vivais une vie normale. Maintenant, il n'y a plus personne. On a laissé que les animaux domestiques. Je suis impuissante, je ne peux rien faire pour ma ville. Je peux seulement rester tout proche, regarder de l'autre côté. C'est vraiment dur pour moi.
Bien sûr que j'ai peur. En fait, on regarde les chiffres et les niveaux de radiation. On ne sait pas ce qui est vraiment néfaste pour le corps humain.
Le compteur Gégère est en train de s'emballer à mesure qu'on approche d'Itate, village martyr dans les montagnes à 45 km au nord-ouest de la centrale de Fukushima. Le vent s'engouffre dans cette belle vallée qu'il transforme en enfer radioactif, mais elle est située hors de la zone d'évacuation. Une bonne moitié des 6000 habitants sont toujours là. Tokuei Hozukawa est éleveur, il possède 70 vaches et une trentaine de poneys.
Pour moi, c'est impossible de partir en laissant les vaches et les chevaux ici. Ils sont comme ma famille. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir évacuer, mais le gouvernement ne me permet pas d'emmener les bêtes avec moi.
Des pointes à 20 microsieverts à l'heure, les taux de radiation sont jusqu'à 200 fois plus élevés que la normale. C'est la centrale nucléaire qui rend la vie si dure. C'est l'enfer, déclare son épouse, Tamiko.
C'est si dur parce que les familles sont séparées. Et aussi, j'ai pitié pour les animaux. Je vais vraiment tout faire pour ne pas partir d'ici. C'est l'endroit que nos parents ont bâti depuis des générations. Je ne veux pas l'abandonner.
Et là, c'est Miwa, 24 ans, la fille unique des Hozukawa, qui explique qu'elle est partie se réfugier à Fukushima ville. Mes parents m'ont dit d'y aller parce que moi, j'ai un avenir. Mais la ville aussi est irradiée, on est sûr de rien non plus. Alors elle remonte au village, aider ses parents et rêver d'un élevage qu'elle devait hériter, mais qui risque de disparaître dans ce paradis campagnard empoisonné. Et tandis qu'il aide ses amis fermiers à vendre leurs troupeaux pour quitter le pays, Tokuei donne libre cours à son amertume.
Les politiciens, je crois qu'à cause des politiciens, les choses sont devenues ce qu'elles sont. Ils auraient dû avoir des règles plus strictes au Parlement national. Ils n'auraient pas construit de centrale nucléaire de ce genre. Mais à partir d'aujourd'hui, ce ne sera pas seulement au Japon, mais dans le monde entier, qu'on saura que mieux vaut ne plus en construire.
C'était Sur la route de Fukushima, un reportage d'Alain Arnaud réalisé avec Cyril Delemer. Rediffusion ce soir à 22h40 et en tout temps sur notre site rsrinfo.ch. On prend des nouvelles du ciel avec Sébastien Dupéret.
Un anticyclone centré sur les îles britanniques influencera le temps en Suisse jusqu'à mardi, avant une nouvelle dégradation prévue pour mercredi. Ce matin, le soleil s'est imposé en toute région et cet après-midi, seuls quelques cumulus viendront parfois apporter un peu d'ombre le long des reliefs. Ils seront peut-être un peu plus nombreux le long des préalpes. Les températures auront malgré tout de la peine à dépasser les 22 degrés au nord des Alpes. La faute à une bise sensible qui souffle sur le plateau et le bassin lémanique. En Valais, les 24 degrés devraient tout de même être atteints. Le zéro remontera de 2500 à 3000 mètres dans le courant de l'après-midi et en montagne, le vent de nord-ouest est faible à modéré. Demain, le soleil se maintiendra, mais avec des vents de secteur nord-ouest faiblissant, le mercure pourra grappiller quelques degrés pour s'établir entre 23 et 25, alors que le zéro remontera à 4000 mètres. Lundi, soleil encore et toujours. En fin de journée, cependant, quelques averses ou orages pourront éclater sur le versant sud des Alpes. Les autres régions ne devraient pas être concernées.
Infotrafic RSR. Attention, sur l'autoroute Lausanne-Genève, on signale la présence de piétons sur la chaussée entre la jonction de Coppet et le pont sur la Versoie en direction de Genève. Et sur les autres routes de Suisse, il y a du monde. Certains bouchons sont à signaler, notamment dans la région du Gothard. Un grand merci d'avoir suivi cette édition du 12-30. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la réaliser, à la technique Fabrice Araldi et Jean-Bernard Pfulgue. Si vous avez manqué tout ou partie de ce journal, vous pouvez le réécouter sur Espace 2 dès à présent. Très belle journée à vous. Il est 13h.